Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure après cette émission. Comme d'habitude, c'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui vont vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevions Sébastien Ladois, président d'Autisme Land. C'est notre invité, l'émission WIPSI du mois, hein, qui nous a envoyé Sébastien. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Jean-Philippe, ça va très bien, merci.
Très bien, on est content de vous recevoir, d'autant plus qu'on a reçu pas mal d'invités, on a parlé pas mal d'autisme au fur et à mesure du temps. Bon, le mois d'avril est traditionnellement consacré à ça, mais bon, c'est toute l'année hein, pour ceux qui vivent avec. Hein. Mais le nom d'Autisme Land est souvent revenu, hein, parce que c'est voilà, devenu un interlocuteur important pour les gens qui sont confrontés à cette problématique. On va passer une petite heure ensemble et on va découvrir votre histoire, hein, parce qu'elle est liée à ce que vous êtes maintenant, évidemment, et puis aux actions importantes que mène votre association. On va d'abord écouter le Flash Info national et international, et on se retrouve pour la première partie de cette émission. Nous sommes avec Sébastien Ladois, président d'Autisme Land. Alors Sébastien, la tradition ici, on aime bien avoir un petit historique personnel de notre invité. Dans le cas présent, de toute manière, ça nous amènera à la raison pour laquelle vous êtes à ce micro, qui va sembler tout de suite évidente. Alors je crois que vous avez passé pas mal de temps dans l'armée de l'air.
Oui, c'est exact. Ouais. Je me suis engagé en 2003 dans l'armée de l'air et j'ai quitté il y a 2 ans, principalement à cause du handicap de mes enfants. Parce que jusqu'à présent, en tant que militaire, j'étais amené à une mobilité intensive. J'étais mécanicien sur Rafale et effectivement, ma femme devait rester à la maison avec mes enfants parce que j'ai 2 enfants, moi autistes. Ouais. Et donc, elle ne pouvait pas avoir d'activité professionnelle parce qu'elle était tout le temps avec eux.
Ah oui.
Ça fait que, au bout de 20 ans, quand j'ai pu avoir une petite retraite, on s'est dit, il est peut-être temps d'échanger et que voilà, je m'occupe des enfants et qu'elles puissent, pouvoir avoir une activité professionnelle.
Vous étiez à la BA 118 ?
Oui, exactement.
Montmorsan, oui. Bon, un endroit que je connais. J'ai fait mon service militaire, moi aussi, hein. Jadis. À l'époque, ça existait encore. Oui, alors évidemment, c'est sûr, c'est un changement radical de vie. Alors, on va commencer à parler... bien entendu, de ce fameux autisme. Alors, je ne sais pas si c'est le terme qu'on dit TSA, c'est peut-être plus, on va dire, correct. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, personnellement ?
Alors, on parle de trouble, de spectre. On parle de spectre autistique. Parce que chaque personne est différente, comme toute personne est différente et unique. Maintenant, dire qu'une personne est autiste, moi, je trouverais rien de péjoratif. Et d'ailleurs, beaucoup se disent autistes. Moi, j'ai aucun souci là-dessus.
D'accord. Non, mais c'est bon à dire, parce que des fois, on se pose la question, on a reçu des fois des invités, on ne sait pas trop, ne pas froisser les gens, tout en pouvoir les désignant d'une manière qu'on puisse comprendre. Hein. Et oui, alors, on l'a dit, alors, spectre, ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique, c'est que, alors voilà, il y a autisme et autisme, parce que on a tous, alors si on n'a pas eu un contact direct dans notre vie, comme une chose qui est arrivée avec vos enfants dont on va parler, hein, on s'y connaît pas forcément. Il y a des gens qui sont un peu connus, hein, des artistes, des journalistes, etc. On sait qu'ils le sont, des sortes d'ambassadeurs quelque part, hein, parce qu'il y a des gens qui sont un peu connus, hein, qui ont des troubles à faire autistiques, mais effectivement c'est très 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 large, hein, vraiment le panel. Il y a des gens qui apparemment, qui ont vraiment, comment dire, ça entraîne un déclin cognitif très fort. Chez d'autres, ils s'insèrent plus facilement dans la société. Voilà, le panel est vraiment énorme.
Alors oui, exactement. Le spectre est très, très large parce que vous pouvez avoir une personne non verbale, non communicale, avec une déficience intellectuelle ou pas, d'ailleurs,
oui.
Qui a des gros troubles sensoriels, à une personne qui a un handicap totalement invisible. Mais par contre, qui a des difficultés dans ses relations sociales, qui peut avoir des mouvements répétitifs intenses. Voilà, ça c'est vraiment, c'est très large. Encore une fois, chaque personne est différente. Là où c'est important de bien comprendre, c'est que même une personne qui a des troubles importants peut être amenée à évoluer. On s'aperçoit qu'on a quand même de belles réussites quand on met en place des prises en charge le plus tôt possible et dans les recommandations de bonnes pratiques.
Oui.
Donc Donc tout ce qui est méthode psychanalytique dans les troubles neurodéveloppementaux sont à proscrire. Voilà, la HAS, oui. Notre autorité de santé a été très claire dessus. Les dernières recommandations datent de janvier 2026. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a de beaux résultats. Alors ça ne veut pas dire qu'ils feront de grandes études, mais en tout cas, on arrive quand même à les inclure en milieu ordinaire, malgré les difficultés.
Oui, donc ce n'est pas une maladie mentale. Hein. Donc ça ne va pas se traiter comme on peut traiter, je ne sais pas, une dépression ou ce genre de choses. Quoi.
Alors non, pas du tout. Le trouble du spectre de l'autisme, les personnes naissent avec. Voilà, c'est au moment de la conception du fœtus qui, voilà, y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau, mais là, un médecin pourrait mieux vous en parler que moi, où vraiment ils naissent avec ce trouble. Après, les facteurs sont multiples. On s'aperçoit quand même un fort facteur génétique actuellement. Voilà, c'est prouvé. Mais après, c'est un trouble qui peut, avec le temps, s'améliorer ou empirer, suivant, encore une fois, les prises en charge que vous avez.
Oui.
Nous, on est contacté par des personnes adultes maintenant qui peuvent avoir 50 ans, qui se posent des questions et qui ont un diagnostic à 50 ans et qui se sentent finalement soulagés parce qu'ils peuvent mettre un mot sur leur état de toute une vie.
Oui, c'est vrai qu'on peut, en tant qu'adulte, se demander, se poser la question, est-ce que moi, j'aurais pas par hasard quelque chose, un trouble assez autistique, ça peut arriver, ça?
Exactement. Bon, après, on se dit pas autiste pour être autiste. Voilà, c'est plusieurs bilans qui doivent être réalisés, notamment un bilan avec un psychologue, avec une orthophoniste, avec une psychomotricienne, voilà, et le compte-rendu avec un médecin, voilà, et autre chose. Mais voilà, mais oui, effectivement, si on s'est toujours senti mal dans sa peau, si on a des troubles avec des difficultés, on va dire comme ça, des difficultés sur tout ce qui est aspect social,
les rapports sociaux,
les rapports sociaux, si on a besoin de s'isoler, si on s'aperçoit qu'on peut avoir des mouvements répétitifs ou du moins des choses, par exemple, on adore quand c'est bien rangé chez nous, quand c'est bien tout aligné, quand tout ça peut être des tissines, mais c'est surtout un mal-être. Souvent, les personnes adultes, les diagnostics tardifs, quand on est contacté, c'est un mal-être. Qui a été fait notamment chez les dames. Alors les dames sont moins diagnostiquées que les hommes. Actuellement on est à 1 pour 4,
ouais, c'est ça,
1 pour 4,
plus les garçons.
Alors il y a plusieurs raisons à ça.
Oui.
Les outils de diagnostic ont été conçus sur la base d'observations masculines. Donc c'est pas forcément adapté pour les dames.
C'était la mesure biaise un peu le résultat, peut-être.
Voilà, actuellement. Mais surtout, les dames sont dites des caméléons. C'est-à-dire qu'elles se fondent beaucoup plus dans la masse qu'un garçon. Donc c'est vrai que si on n'a pas les bons outils de diagnostic, moins si c'est pas calqué sur un profil féminin, on peut passer à côté. Souvent, d'ailleurs, ça amène des diagnostics tardifs.
Et oui, bien sûr, oui.
Donc oui, il y a des études, ils sont en train de changer, je sais que au niveau du CR à Nouvelle-Aquitaine, ils sont en train de travailler dessus, et c'est vrai que ça va plutôt être une bonne chose, parce que ça évitera plusieurs burn-out. Nous on appelle ça des effondrements, mais c'est des burn-out.
Ouais. Alors effectivement, alors cet aspect génétique, vous disiez, vous avez deux garçons qui sont touchés. Donc là, ça fait quand même beaucoup. Enfin, dire mais deux, on peut se dire effectivement. Donc ça, est-ce que vous avez une discussion avec le corps médical à un moment donné sur ça? Il y a un gène identifié dont vous serez porteur ou la maman? Enfin, est-ce que ça a été évoqué, ce genre d'aspect des choses?
Alors, ça a été évoqué. Alors gène, je ne sais pas. Je lui dis, il faudrait un médecin là, pour en parler un peu mieux. Je sais pas, mais oui, en tout cas, il y a quelque chose. Alors moi, actuellement, ma femme est en parcours de diagnostic. Donc si effectivement un autisme, on pourrait mettre ça sur l'hérédité. Moi, mes fils, après, alors mon premier maintenant va faire 18 ans, a été diagnostiqué à 4 ans. Il était mutique, il parlait pas du tout, isolé. Et mon deuxième fils a été diagnostiqué à 18 mois, lui.
Ah oui.
Très jeune.
Ah oui. Donc ça veut dire que les signes qu'il avait étaient. Ça sautait un peu plus aux yeux, j'imagine, parce que pour qu'on ait des idées déjà aussi jeunes. C'était quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille?
La puce à l'oreille. Alors, mon premier, c'est... on part du deuxième.
Oui, oui.
Alors, le deuxième. Le deuxième, eh bien, en fait, comme on avait déjà le premier, on a vu des signes quand même qui n'étaient pas forcément normaux. Et puis, il employait les objets de façon détournée aussi.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il allait utiliser des ustensiles de cuisine pour jouer avec, ou alors il allait prendre des petits objets pour mettre... je me souviens dans les enceintes, vous avez des enceintes, et puis lui il mettait ça dans les trous, dans tout ce qu'il pouvait mettre.
Ah oui, d'accord. Hein, oui.
Pareil, il adorait passer de plaque d'égout en plaque d'égout.
Il
ne fallait pas rater une plaque d'égout dans la rue.
Oui.
Il adorait aligner les choses. Il était très actif. Par exemple, pour prendre quelque chose, il prenait notre main, il allait nous chercher.
Ah oui, un truc indirect, quoi. Ah,
voilà,
oui,
exactement. Ouais. Donc tout ça, fait qu'on s'est quand même vite dirigé vers... nous, à l'époque, il y avait le centre... Ouais, on est passé au centre ressources autisme, mais il a pu être diagnostiqué rapidement. C'est les petits signes.
D'accord, très bien. Alors, on va faire déjà une première pause, et puis après, on va parler un petit peu de votre association et de... donc effectivement, alors ça ne se soigne pas, hein, on l'a à vie, mais bon, c'est vrai qu'une prise en charge adaptée et une formation adéquate va grandement changer la qualité de vie des personnes qui sont concernées. Voilà, on fait une petite pause musicale, on se retrouve ensuite. Voilà, de retour avec Sébastien. Alors, on va parler un petit peu de cette association, Autisme Land. Depuis quand elle existe, et de qui elle est composée, et quelles sont ses actions?
Alors, l'association Autisme Land est une association de familles qui a été créée en 1994.
Mmh.
Donc, ça fait plus de 30 ans maintenant. Donc, les fondateurs, à l'époque, l'ont créée parce que, justement, dans les années 90, vous aviez rien en ce qui concerne l'autisme. Il fallait tout construire,
t'imaginer. Ouais.
Donc, c'était... je pense qu'à l'époque, ça devait être quand même intense et... qu'ils ont eu, ils ont bien fait de la créer cette association.
Bah oui.
Aujourd'hui, moi j'ai pris la présidence de l'association, je suis dans ma troisième année. Actuellement, j'ai 13 personnes dans le conseil d'administration, donc nous sommes 14 en tout, pour coordonner plusieurs actions. L'association a pour cœur, son objectif principal, c'est de pouvoir accompagner les familles dans leur parcours de vie, pouvoir les conseiller au mieux, pouvoir les aider dans leur démarche administrative, notamment dans la constitution des dossiers MDPH, la maison des personnes handicapées, mais aussi pouvoir leur proposer des temps d'échange, de rencontres un peu partout dans le département. L'association agit sur tout le département, pour rompre l'isolement des familles, pouvoir aussi conseiller, expliquer le trouble, pouvoir conseiller pour pouvoir employer ou demander des dispositifs qui pourraient aider à la prise en charge de leurs enfants, ou d'eux-mêmes aussi, parce que pas des personnes adultes.
Oui.
On agit dans différents domaines. Nous, notre plus gros partenariat, c'est avec l'éducation nationale. On a un gros partenariat depuis maintenant... il a été fait en 2017, ce partenariat, où on a voulu... Alors, merci à la DSDN d'ailleurs d'avoir accepté ce partenariat, où on a voulu essayer de pouvoir faire en sorte de former les enseignants et les AESH pour qu'ils connaissent mieux ce trouble. Donc, l'idée, c'est de pouvoir leur proposer des formations. Alors, on passe par un organisme de formation, c'est pas Autisme Land qui forme, c'est l'organisme Epsilon à l'école. Il y a ça, et il y a aussi, ça nous permet aussi de pouvoir, avec eux, choisir l'AESH de l'enfant dont la famille nous a fait la demande. C'est-à-dire que c'est eux les employeurs, mais on participe avec eux au recrutement et au positionnement des AESH suivant le profil de l'enfant.
D'accord.
Ce qui permet aussi de sécuriser le profil, parce que nous, on peut dire, par exemple, durant l'entretien, si une personne est absolument à côté du trouble, on sait qu'elle n'aura pas les bons gestes. Donc ça, on peut très bien, cette personne ne convient pas, on préfère quelqu'un d'autre. Ou maintenir aussi l'AESH actuelle.
Oui.
Après, on essaye aussi d'être dans le plus possible dans l'accès aux loisirs pour les jeunes. Donc ça, c'est souvent avec d'autres associations qui nous contactent, qui ont, eux, déjà mis en place des choses. Notamment, vous avez Maison Bleue à Mont-de-Marsan qui propose du judo adapté. Enfin, c'est le prof de judo qui fait ça. De la gym, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça, nous, on diffuse. Après, on essaye au mieux de résoudre les problèmes à nos partenaires. C'est-à-dire, quand quelqu'un nous contacte pour « je me suis jamais senti bien dans ma peau, j'aimerais poser un diagnostic », bon, on l'oriente vers des professionnels. « J'ai des soucis à l'école », ben là, on contacte la DSEN pour voir comment on peut travailler avec eux pour essayer de maintenir ce petit en milieu ordinaire le plus possible. J'ai des problèmes avec la caisse d'allocation familiale, donc pareil, on a des contacts. Donc souvent, on essaie de résoudre avec eux les problèmes, ou du moins de comprendre le système pour pouvoir informer au mieux les familles des droits qu'elles ont et comment elles peuvent demander. Voilà, c'est ça, parce que souvent on s'aperçoit que c'est quand même une méconnaissance du système. Du moins, comment,
bon, c'est un problème général, je crois, pour des tas de choses. Hein. Ouais. C'est compliqué.
Mais souvent, on a cette fonction de médiateur qui permet d'apaiser tout le monde et de dire, ok, bon, il faut, par exemple, il faut ça pour obtenir ça. Est-ce que déjà vous y avez droit? Ok, vous y avez droit. Donc on, c'est comme ça qu'il faut constituer le dossier ou la lettre, ou, voilà. Et souvent, en fait, on n'est pas 100%, mais on n'est pas loin quand même de, voilà, que ça soit accepté. Comme ça, souvent, ça résout tous les problèmes. Donc, voilà, un peu cette fonction de médiateur. À côté de ça, l'association, en 2017, suite à, au rapport PIVTO 0100 Solutions, a créé un PCPETSA dans les Landes. C'est le seul qu'il y a qui est dans les Landes, avec deux antennes, en collaboration avec le groupement Autisme Landes, Autisme France. Donc ça, c'est l'association gestionnaire qui porte ce projet-là. Et ça, il vit depuis 2017 et ça fonctionne plutôt bien.
D'accord. Bon, donc, on ne peut conseiller qu'aux gens qui sont confrontés à un diagnostic, hein, que ce soit le leur ou celui d'un proche ou d'un enfant, bah de se tourner vers une structure comme la vôtre. Parce que c'est vrai que quand ça nous tombe dessus, entre guillemets, premier moment de panique, tiens, qu'est-ce que je dois faire, à quoi j'ai droit, qu'est-ce qui va se passer, etc. Vous êtes le bon interlocuteur pour ça, apparemment.
Mais alors, on espère du moins conseiller au mieux les gens. Et à chaque problème, une solution. Par exemple, pendant un an, enfin moi, du moment que j'ai pris la présidence, je me suis dit, mais quand même, les familles, quand elles ont le diagnostic, elles sont pas forcément aidées, elles sont souvent dans l'errance au départ, on ne sait pas comment aborder ça. Donc nous, c'est vrai qu'il y a maintenant un an, on a pu répondre à un appel à projet de l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui nous a permis d'ouvrir notre pôle ressources et relais. Donc on a des salariés, vraiment des professionnels qui, ils ont, ce pôle a été créé spécifiquement pour aider les aidants. C'est-à-dire que quand vous avez un diagnostic d'autisme ou même avant le diagnostic, il n'y a pas besoin d'orientation, il y a juste besoin d'un coup de téléphone pour dire ok. Et elle, enfin les salariés proposent une guidance parentale, peut proposer aider à comprendre le handicap, mettre en place des groupes de parole, mettre en place des sensibilisations, des accueils itinérants. Voilà, donc vraiment on a conçu ça pour les familles. Et on espère construire d'autres choses après.
Oui, ben oui, bien sûr. Mais c'est... Alors, on parlait aussi de formation. On va en parler un petit peu dans la prochaine partie. Mais aussi, le personnel médical n'est pas forcément toujours non plus toujours tout à fait au courant. Après, les médecins ne peuvent pas tout savoir. Hein. C'est quand même... Il y a quand même beaucoup de choses à savoir quand on est médecin généraliste, alors spécialiste. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a parlé des fois avec des invités qui avaient des enfants, qui avaient des troubles sphère autistique, d'une certaine errance médicale. Hein. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'enfin, il y ait un diagnostic qui soit posé, qu'on sache ce qui se passait par rapport à l'enfant. Donc ça, c'est voilà, c'est une problématique qu'on a déjà rencontré plusieurs fois avec des associations ici. On va faire une deuxième pause, on va écouter le flash info local ce coup-ci, on se retrouve ensuite pour la troisième partie de cette émission. Et nous retrouvons Sébastien Ladois de Autisme Land. Alors, il y a aussi des projets. Alors, c'est vrai que j'ai dit qu'au début de l'émission, vous étiez notre invité WIPSI, hein, puisque chaque mois, tous les mois, en collaboration avec WIPSI, nous recevons un invité qui a un rapport privilégié avec eux. Vous avez un projet avec eux de mobilité. Bon, alors, la mobilité, c'est vraiment leur truc. Hein, WIPSI, ça, c'est avec les jeunes, etc. Voilà. Mais quelque chose en rapport avec l'autisme. Parle-nous-en un petit peu de cette collaboration.
Oui, alors la rencontre avec Wipsy, ça a été quand même une très belle rencontre. Hein. Parce que tout de suite, on a pu échanger sur l'autisme et du coup les mobilités, donc, qui est effectivement leur credo. Le projet. Il y a un projet effectivement en commun que nous avons sur la mobilité européenne pour favoriser l'inclusion des personnes autistes. Voilà, je le dis comme ça parce que c'est vraiment une mobilité où ça va être un groupe de jeunes qui part avec des personnes autistes dedans. C'est pas juste des personnes autistes qui partent, vraiment, c'est ça. Oui. On est vraiment dans l'inclusion pure où on peut, où on va être... au milieu de plein d'autres jeunes. Donc le projet, c'est un financement Erasmus+,
oui.
Qu'elles ont eu. Donc ça, c'est top. Et on a commencé à le construire. Et la première mobilité va être en janvier 2027 en Belgique.
D'accord. Voilà.
Donc tout ça, ça se prépare. Et il y a un financement supplémentaire pour pouvoir amener un ou deux éducateurs animateurs en plus pour encadrer le groupe. Mais encore une fois, l'idée, c'est de se fondre dans la masse. C'est vraiment pouvoir faire participer tout le monde, mais en prenant en compte voilà, les besoins de ces personnes-là.
Donc alors, il y a un volet inclusion dans l'Erasmus qui est déjà prévu par les institutions, où c'est une demande spécifique en disant ouais, on aimerait bien traiter pour ça spécifiquement. Comment ça se passe ?
Alors là, il me semble que c'était une demande spécifique de la part de Wipsy.
Oui. Oui, donc ils ont signalé le besoin de faire de l'inclusion et pas juste des jeunes, voilà, d'accord.
Ouais, pour les personnes autistes.
Oui, pour les voilà.
À savoir que des personnes autistes, c'est 1 sur 100 dans la population, mais c'est exponentiel, enfin ça augmente. Hein.
Oui.
Donc c'est de plus en plus. Donc c'est, enfin nous vraiment ce projet. Enfin moi quand on en a parlé, ça m'a émerveillé. Hein. Vraiment, on est sur vraiment une belle inclusion et ça et on pourra surtout proposer de la mobilité à des personnes TSA qui compensent peut-être un peu moins bien que certaines parce qu'il y en a déjà des personnes TSA qui partent avec Wipsy. Hein. Oui. Il n'y a pas de souci. Hein.
Oui.
Mais ces personnes-là arrivent à compenser un peu sont plutôt au potentiel. Moi, je crois en ce projet-là dans le sens où voilà, on va pouvoir proposer aussi des mobilités à des personnes qui n'auraient peut-être pas pu en faire.
Oui, parce que le but de tout ça aussi, c'est que des gens voilà, qui sont atteints de TSA puissent avoir une vie, entre guillemets, même si le mot est toujours dangereux, normale, c'est-à-dire eux aussi, qui soient obligés d'aller au travail. Ça leur apprendra, voilà. Toujours obligés d'aller au travail, nous. Mais voilà, c'est l'air de rien, le travail, hein. C'est quand même une chose importante dans une société. Hein, quand on ne travaille pas, on est moins inséré. Ce n'est pas évident, des fois, d'être demandeur d'emploi, malgré ce que certains veulent faire croire. Et donc, ça, c'est important aussi. La partie professionnelle aussi, l'insertion dans le milieu professionnel, c'est super important pour vivre dans la cité.
Mais oui, exactement. Alors, actuellement, l'environnement travail n'est pas forcément adapté pour ces personnes-là. C'est très compliqué. Déjà, rien que l'entretien d'embauche. En entretien d'embauche, il faut que vous réussissiez à vous vendre, voilà ce que l'employeur ait envie de vous recruter.
Oui.
Ça, les personnes autistes, c'est quand même très compliqué pour elles. Hein.
Regardez dans les yeux, des fois, c'est difficile pour un autiste. Pas toujours, mais des fois.
Voilà, exactement. Elles sont toutes différentes, encore une fois, mais ça peut être compliqué. Ou alors, ça peut être compliqué aussi d'aller rechercher une information, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un temps de réponse plus important que d'autres. Ou alors, on peut aussi être perdu dans nos idées. On va pouvoir aussi avoir des mouvements non adaptés socialement, mais qui permettent de se réguler. Enfin voilà, il y a plusieurs freins que peut-être les recruteurs vont percevoir de façon négative et du coup pas recruter. Mais après, il y a aussi le maintien dans l'emploi. Le maintien dans l'emploi reste très compliqué parce que là, on va demander du social. Par exemple, vous êtes dans une entreprise, il faut pouvoir communiquer avec les gens, il faut pouvoir être bien vu. Donc par exemple, ça passe notamment plus souvent par les pauses et les machines à café, on va discuter. Les personnes autistes, elles ont peut-être juste besoin d'être au calme de pouvoir se ressourcer, elles n'ont besoin de voir personne. Mais tout de suite, on met ça dans la catégorie, elle n'est pas sociale, elle se met à part.
Ouais. D'ailleurs, on traite des fois les gens d'autistes. Oh, t'es vraiment un autiste, toi. Hein, c'est des fois les choses que les gens disent pour mettre en avant ce déficit social.
Alors ça, il ne faut plus le dire.
Oui, je sais bien, mais on peut l'entendre, ça.
Oui, parce que ça, c'est vraiment mettre quelqu'un dans une catégorie.
Ouais, voilà.
Il faut pas, si on veut vraiment travailler l'inclusion, il faut juste prendre la personne qu'on m'a aidé, ça demande de l'écoute et la bienveillance, et franchement, enfin, pas grand chose de plus. Alors, quand on connaît un peu, il faut vraiment générer les adaptations qui sont nécessaires pour elles, mais en plus de ça, ces adaptations peuvent servir à tout le monde. Mmh. Enfin, il y a des pratiques que l'on propose qui, en fait, permettent à d'autres personnes neurotypiques d'être parfaitement épanouies dans leur société. Mmh. Et en plus, à l'heure d'aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale.
Oui, c'est important. C'est vrai. Oui, oui.
Et du coup, dans cette insertion pro, si on peut en dire deux mots, on est sur un projet aussi de pizzeria inclusive.
Oui.
Donc, il devrait voir le jour dans les Landes. On fait d'ailleurs plusieurs réunions publiques à ce sujet. Mmh. La prochaine est le 19 mai à Saint-Paul-les-Dax, à 19h.
D'accord.
Voilà, on va le diffuser sur notre Facebook. Mmh. Donc là, le concept, c'est de pouvoir créer une pizzeria sur le modèle italien, donc Pizza Hut, qui permettrait l'emploi de personnes autistes salariées en CDI en temps plein ou temps partiel ou temps petit partiel, enfin voilà, ça sera complètement adaptable pour pouvoir les faire travailler en milieu ordinaire et surtout prouver que ça fonctionne. Mais on change effectivement tous les codes d'une pizzeria.
Oui.
Une pizzeria, vous avez les tables serrées par exemple, Là, une pizzeria va accueillir 200 personnes, on va accueillir 80.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Pas compliqué parce qu'on va élargir la table, il va y avoir une salle aussi pour se reposer. Voilà. Et il va y avoir 80% de personnes autistes qui travaillent là-dedans.
D'accord.
Hein. C'est l'idée.
Oui, oui. Bah, c'est chouette. Hein. Moi, j'avais vu ça, j'avais un article sur Sud-Ouest il y a pas mal de temps, 6 mois, 8 mois, enfin, je sais pas, j'ai pas la date exacte, qui parlait de ça. Voilà, j'étais un peu surpris, j'ai dit tiens, voilà, et puis j'avais regardé, et j'ai dit ouais, effectivement, c'est un projet sympa. Ouais, et puis après, les gens qui vont travailler là-dedans, ben, je pense qu'ils vont être super contents en fait.
C'est ça. Et comme je vous disais juste avant, dans chaque problème, il y a une solution. On a essayé aussi, pour promouvoir cette insertion professionnelle, de pouvoir aussi essayer de... Alors, on s'appuie avec une nation gestionnaire qui est AFG Autisme pour pouvoir créer aussi une équipe mobile d'insertion professionnelle qui permettrait de pouvoir amener un savoir en entreprise pour pouvoir employer des personnes avec autisme, voilà, de façon totalement adaptée en milieu ordinaire.
Oui.
Et ça fait... Alors, on n'a pas la réponse officielle encore. On espère que le département sera sensible à ça. Et on espère vraiment pouvoir maintenir dans l'emploi et surtout permettre à des personnes autistes d'accéder à l'emploi. Et ça, il faut nous voir comme... Alors, du point de vue de Cap Emploi, France Travail et la mission locale, il faut nous voir comme un outil. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous utiliser... Voilà, c'est en tant que partenaire.
Oui,
voilà, c'est eux qui ont la charge des personnes, il n'y a pas de souci. Nous, on est partenaire un peu spécialisé pour les aider. Pour des personnes qui n'ont rien, on peut venir avec eux, les aider à rechercher un travail, à avoir un contrat, tout ça.
D'accord. Alors, comment ça se passe? On parlait de je reprends sur l'exemple de l'entretien. Il y a encore des gens qui sont atteints de TSA qui vont ne pas se manifester en tant qu'autiste, justement? Parce que justement, si l'interlocuteur, la personne qui fait l'entretien ne le sait pas, il ne va pas pouvoir l'interpréter de la même manière. Est-ce qu'il y a des gens qui le cachent? Ou alors le fait de travailler handicapé aussi, c'est des fois un avantage, entre guillemets, pour se vendre auprès d'une entreprise, puisque justement, elle va avoir des inconvénients en moins. Comment ça se passe, ça? Comment c'est géré par les gens?
Ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui sont à l'aise avec ça et qui le disent, et nous, on préconise de le dire, parce qu'effectivement, ça ouvre à des aménagements et une compréhension de l'employeur. S'il ne comprend pas, il faut fuir. C'est pas compliqué.
Oui.
Mais il y a des gens, effectivement, qui n'osent pas le dire, qui ne le disent pas, et c'est leur droit, et ils ne sont pas obligés de le dire. Mais ça peut être compliqué. Souvent, on voit des burn-out après.
Oui.
Voilà. Donc, nous, on préconise plus de le dire. Mais un entretien d'embauche, c'est quand même, enfin, ça reste quand même compliqué. Mmh. Nous, on est plus partisans de dire, on va faire un test en entreprise pendant, disons, 15 jours. Il va travailler. Enfin, la personne va travailler. Oui. On va voir comment ça se passe. Mmh. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, eh bien, on sera donné 15 jours. De toute façon, il y a une période d'essai dans chaque entreprise.
Oui.
Voilà, on est plus dans cette démarche-là.
D'accord. Après, je ne sais pas si vous avez des relations avec, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus le nom, FMS, qui est quand même un interlocuteur ici, un gros interlocuteur à Saint-Jour, qui emploie, je ne sais plus combien, 70-75% de travailleurs handicapés. Hein. Je ne sais pas si vous avez un partenariat avec eux ou un rapport particulier.
Alors, pas moi directement,
oui.
Parce que j'ai un agenda qui est très, très serré, mais je sais que le fondateur de la pizzeria inclusive, enfin, qui essaie de monter ça, a pris contact effectivement avec le directeur ou le président, je sais plus, oui. Pour effectivement échanger sur ces sujets. Mmh. On sait qu'ils sont inclusifs.
Ouais, ouais, c'est l'interlocuteur, hein, vraiment, pour les travailleurs handicapés, c'est vraiment l'entreprise dans le coin. C'est pas pour faire de la pub, mais on les a reçus ici, des représentants, on en a discuté. C'est vrai que c'est important ce qu'ils font, ça donne quand même du travail à beaucoup de gens, et ça, c'est important. Eh bien, on va faire la dernière pause, et puis on va atteindre la dernière partie de cette émission, après un petit peu de musique, à tout de suite. Et c'est la dernière partie de notre émission, c'est une partie qui est souvent consacrée aussi au futur, plus qu'au présent, enfin en tout cas à l'actualité et aux projets. Donc, et ça, il y en a, alors des projets, il y en a, on s'en a bien discuté hors antenne, il n'y a que ça, hein. Autant mieux, hein, mais voilà, donc, mais il y a une actualité, il y a des choses qui se passent, notamment avec l'ADAVEM.
Oui, exact. On a eu une belle rencontre au Palais de Justice il y a peu de temps et l'idée, c'est de pouvoir proposer une conférence en fin d'année, certainement octobre ou novembre, enfin une table ronde plutôt, octobre-novembre pour parler du droit de chaque personne et où est-ce qu'on peut se renseigner, voilà, échanger un peu avec tout ce monde côté judiciaire qui est encore, enfin pour nous, c'est méconnu.
Oui. Ça. Oui, c'est vrai qu'il y a les droits et les devoirs, hein, c'est forcément évident, en tant que personne qui a un trouble comportemental, etc. Voilà, quels sont ses droits et ses devoirs, hein, notamment la reconnaissance de la responsabilité en cas de problème, enfin, que sais-je. C'est sûr que c'est des questions dont il faut discuter, ouais, j'imagine, effectivement. Et ensuite, comme actualité, qu'est-ce que vous avez encore et projets dont on peut parler ?
Des projets, on en a plein. En tout cas, si vous voulez nous rencontrer, nous serons le 16 mai à Ichoux pour un café par an. Mm-hmm. On en propose à peu près un par mois. Après, ça sera à mi-mi-mi-mi-mi au mois de juin. Et après, surtout, n'hésitez pas à nous contacter parce que des projets, on en a plein à la tête. Chacun peut faire quelque chose, même à son petit niveau. Que ça soit une aide bénévole, financière, enfin voilà, nous, on est contacté par des informaticiens, par exemple, pour nous aider pour le site internet.
Et oui, voilà. Oui. Voilà.
Tout le monde peut faire.
La com, on en parlait beaucoup, la com, ça prend beaucoup de temps, la com.
Il faudrait quelqu'un à temps plein pour faire ça.
Ah oui, je confirme. Oui.
Mais oui, donc voilà, il y en a plein. Je ne pourrais pas tout lister là parce qu'on est beaucoup, beaucoup sollicité par autant les familles que les institutions, mais en tout cas, on essaie de faire avancer les choses de façon intelligente et du mieux possible pour les familles.
Alors vous disiez tout à l'heure que c'était en augmentation, le nombre de TSA, de diagnostic. Alors est-ce que c'est le diagnostic qui est de plus en plus efficace ou est-ce que il y en a de plus en plus de personnes
Il y a de plus en plus de personnes. Hein. Le diagnostic, effectivement, s'affine avec le temps parce qu'on a il y a de nouveaux outils. Mais oui, il y en a de plus en plus. Pour vous donner une idée, en deux ans, à l'APSO, dans la plateforme de coordination d'orientation, on a diagnostiqué 830 personnes.
Ouais.
Enfin, c'est énorme. Mm-hmm. Donc oui, ça augmente. Ouais. Ça augmente. Alors pourquoi plusieurs facteurs certainement, mais là où on a une baisse démographique, on a une augmentation des troubles neurodéveloppementaux.
Ah ouais, bon, donc il y a des choses à voir de ce côté-là.
Il faut bien se former. Surtout,
oui, voilà, c'est ça.
Bonne
voilà.
Pratique.
Oui, alors. Oui, alors voilà le message qu'il faut garder à la fin quand même, c'est que voilà, les choses peuvent s'améliorer. Bien sûr, les gens qui ont un trouble TSA, ben voilà, c'est pour la vie. Hein. Mais que la formation de tout le monde va permettre que les gens déroule une vie qui soit de meilleure qualité, en tout cas, qu'ils soient mieux insérés dans la société et que la société aussi vive mieux avec eux. Et voilà, tous ensemble, on peut vraiment améliorer les choses en discutant et en faisant de la formation bienveillante.
Oui, exactement. Voilà. Et si vous voulez connaître nos actualités, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou regarder notre site internet.
Voilà, je mettrai le lien avec le podcast, bien entendu. Et j'espère que vous aurez plein de monde. Puis vous avez besoin de gens, hein, des bénévoles, des gens qui viennent un peu passer de temps pour vous aider, pour s'occuper de tout ça, parce que la tâche est lourde, je crois.
Oui, des financements aussi.
Oui. On ne l'a pas dit, mais c'est vrai, ça paraît tellement évident. Ben oui, évidemment, le financement, c'est vrai. Il en faut toujours. Très bien, merci beaucoup à Sébastien d'être venu nous parler de ce témoignage, et puis voilà, de c'est une cause nationale, hein, puisqu'on en parle de plus en plus, donc ça veut dire que voilà, les choses vont évoluer, j'en suis sûr, en grande partie grâce à des gens comme vous qui s'investissent. Hein. Voilà, merci beaucoup d'être venu en parler.
Merci pour votre accueil.
Merci, au revoir.
Au revoir.